C'est notre dernière prédication, si Dieu le veut, sur l'épître aux Éphésiens. On a terminé un grand chelem. J'étais surpris du nombre de fois où j'ai dû scinder mes prédications en deux, parce qu'il y avait tellement de choses merveilleuses à voir, en fait, de la bonté de Dieu dans notre quotidien. Et là, je pense que pour cette dernière prédication sur ce livre, j'étais aussi dans ma préparation personnelle de ce livre, en fait, c'est vraiment un récapitulatif de tout ce qu'on a vu au fil des semaines et des mois, de la bonté de Dieu, de sa bienveillance, du fait que il veille sur nous, il a des projets merveilleux pour nous. Et je vous invite vraiment à nous réjouir ensemble de tout ce qu'on va redécouvrir ensemble dans ces derniers versets qui font appel à plein de choses qu'on aura déjà vues. Si vous n'étiez pas là, relisez l'Épître aux Éphésiens cet été. Je pense vraiment que ça vous fera du bien, comme moi, ça m'en a fait. Alors, je ne sais pas vous, mais peut-être parfois vous avez déjà entendu ça, c'est peut-être à ce moment-là que vous êtes converti. Quelqu'un est venu vous voir et vous a dit, donne ta vie à Jésus et tu auras la joie, la paix et une vie abondante. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Ouais, ça se vend bien, hein? Et oui, c'est vrai. Mais je pense que pour tous ceux qui ont plus de quelques mois de vie chrétienne, ça ne représente pas l'ensemble de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'intégralité. Alors Jésus, on l'a vu dans une prédication récente en Jean 10, Jésus promet une vie abondante. Et c'est vrai, c'est notre espoir. Et c'est ce qu'on peut vivre dans notre quotidien, la présence de Jésus dans nos hauts et nos bas, mais dans cette espérance que nous serons avec lui pour l'éternité, dans l'abondance, dans la joie, dans son amour. Amen. C'était un petit amen, mais je le prends. Mais étrangement, Jésus, en Matthieu 10, il dit qu'il nous envoie au milieu des loups comme des brebis. Ah, ça pique plus, hein. Et ces deux images, enfin cette image-là d'être envoyé comme une brebis au milieu des loups, ben, c'est moins plaisant. Et comment on fait cohabiter une vie abondante et de vivre au milieu des loups? Jésus, en Jean 16, il nous dira qu'il nous donne sa paix, mais que nous connaîtrons des persécutions. Pas simple, hein? On peut se poser cette question, mais si Jésus, il a remporté la victoire à la croix, c'est ce qu'on prêche semaine après semaine. Pourquoi est-ce que je connais encore des combats dans mon quotidien? Pourquoi, si Jésus est vainqueur, moi, j'ai encore des combats à mener? Pourquoi est-ce que je n'ai pas toute cette abondance dont il est question dans la Bible? Vous savez, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le débarquement des forces alliées en Normandie le 6 juin 1944. On a appelé ça le jour J. C'est le fameux jour, le jour où tout a commencé pour être libéré de l'invasion nazie. Et suite à cela, il y a eu des batailles assez sanglantes sur ces plages, sur aussi ces rochers qu'il a fallu escalader. Et encore des semaines et des mois après, il y avait encore des batailles sanglantes. Mais à un moment, il y a eu un changement qui a fait que les forces alliées ont commencé à prendre vraiment toute la possession du territoire et aller de plus en plus jusqu'en Allemagne, jusqu'aux portes de Berlin. Les troupes ont dû combattre pour le jour de la victoire, qui était le 8 mai 1945. Le jour de la victoire finale. Est-ce qu'après le 8 mai 1945, il y a peut-être encore eu quelques petits combats, mais c'était fini. La guerre en Europe était remportée. Et je vous propose de faire un parallèle, même s'il est imparfait, mais Jésus, lui aussi, il a débarqué. Il a débarqué dans ce monde à l'année zéro, l'année A. Et il a remporté une victoire décisive à la croix par sa résurrection. Amen. Ah. Okay. Certains n'ont pas beaucoup dormi, alors j'ai dit que je les tiendrais réveillés. Donc. Et là, Jésus, il a remporté cette victoire qui est décisive, la victoire est assurée. Et là, c'est maintenant comme si Jésus était aux portes de cette ville et qui disait, maintenant, je vais encore attendre un peu pour que des hommes rebelles comme toi et comme moi, qui sont ennemis de Dieu, puissent sortir le drapeau blanc. Aller vers Jésus et se réconcilier avec lui. C'est ce temps que Jésus nous laisse maintenant depuis presque 2000 ans pour que nous puissions aller vers lui. La victoire est sûre et certaine et nous vivons ce temps de grâce, ce temps où aujourd'hui on peut encore lever ce drapeau blanc et dire « Moi, je veux suivre Jésus-Christ. Je veux abandonner ce qui ne lui plaît pas. Je veux abandonner la guerre contre lui. Je veux être en paix avec lui. Je veux vivre pour lui. Je veux être réconcilié avec lui. » Mais ça implique que durant ce temps, et dans le temps qu'on vit, peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être la semaine prochaine, nous vivons encore des combats. Et c'est là, c'est intéressant de se dire que la Bible a la solution dans ces combats. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous raconter, bah, tu n'as qu'à te dire 3 fois par jour, tout va bien. Non, ça ne marche pas ce genre de choses. La vraie solution, elle se trouve dans la Bible, et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir que nous pouvons tenir ferme par la force toute puissante de Dieu. Pas par mes forces, mais la force toute puissante de Dieu. Et on va voir ça sous 3 aspects. Tout d'abord, la force pour combattre, l'équipement pour combattre et la stratégie pour combattre. On a besoin de ces 3 choses. Et je vous invite à lire, si tu peux défiler pour me suivre en même temps. Donc, Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 770. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire, afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais. Tychique, le frère bien-aimé qui est fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Amen. M'en rattraper quand... La force pour combattre. Ça ne peut pas venir de nous. On a besoin de Dieu. Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Sois fort dans le Seigneur. Et pour ça, il y a 3 conditions pour être fort dans le Seigneur. Pour être fort dans le Seigneur, nous devons être en Christ. L'Épître aux Éphésiens répète des dizaines de fois « Vous êtes en Christ ». Il répète aussi que tout ce que nous recevons se trouve en Christ. Par exemple, Paul, au chapitre 1, verset 1, il commence par ça. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints, donc c'est-à-dire les membres du peuple de Dieu, c'est-à-dire toi et moi qui formons cette église, qui sont à Éphèse ou à Veneux, et aux fidèles en Jésus-Christ. » Chapitre 2, verset 3. « Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Chapitre 1, verset 5. « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Tout ce que nous l'avons en Jésus-Christ. Tout ce qui fait notre force, nous l'avons en Jésus-Christ. Et si nous voulons expérimenter la toute puissance de Dieu dans nos vies, vous avez envie d'expérimenter ça ?
Amen.
Nous avons besoin d'être en Christ. Et moi, ce qui me touche, c'est que Dieu, il permet que des non-croyants puissent expérimenter des miracles, des guérisons, des vies transformées, peut-être d'être délivrés d'addictions. Mais il y a une seule chose, un seul miracle, que Dieu réserve à ceux qui se confient en Jésus-Christ, à ceux qui sont ses enfants. C'est Dieu lui-même qui vit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous à chaque instant et qui nous rappelle « Tu appartiens à Dieu, sa puissance agit en toi. » Ici et jusqu'à l'extrémité de la terre, le Saint-Esprit agit et veut t'utiliser, il est puissant. En Éphésiens 2, 2, verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes
sauvés.
Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu.
Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Pour être fort, il faut appartenir à Christ. Et on ne peut pas mériter d'appartenir à Christ. Mais Dieu l'offre à ceux qui veulent se réconcilier avec lui. Tous ceux qui sortent ce drapeau blanc et qui disent « Je veux la paix avec Christ, je veux vivre avec lui ». Enfin, deuxième aspect, pour être fort dans le Seigneur, nous devons connaître nos faiblesses. Et cette lettre décrit de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons être en lutte, qu'on a vu maintenant, surtout dans les dernières prédications. Peut-être on est dans notre faiblesse pour se conduire de manière digne de Jésus-Christ. On connaît des faiblesses pour conserver l'unité de l'Église, pour prendre part à la bonne santé de notre Église locale, pour lutter contre les faux enseignements et l'immaturité spirituelle, pour lutter peut-être dans nos pensées contre des pensées qui nous détruisent, qui te disent « t'es nul ». Est-ce que Dieu il t'aime vraiment? Est-ce que tu appartiens vraiment à Jésus? Est-ce que tu es vraiment son enfant? C'est refuser les envies qui nous amènent au péché qui ne viennent pas de Dieu. C'est nous débarrasser du mensonge, de la colère, de l'amertume, de la fureur, de la calomnie, de la méchanceté, de l'immoralité sexuelle, de la cupidité, de l'idolâtrie. Ne laissez aucune part au diable. Est-ce que vous, comme moi, est-ce que vous rencontrez des faiblesses pour lutter dans ces domaines? Il y en a un qui est d'accord avec moi. Ouais, c'est notre lot à tous! Et les Éphésiens ont également, ben, on l'a vu en toile de fond, des injustices sociales, des ultra-riches et des ultra-pauvres, des hommes libres et des hommes esclaves. Et en plus de ça, ils ont des influences occultes avec plein de temples où on vénère d'autres dieux avec de la prostitution sacrée et ainsi de suite. Et Paul leur dit que vous allez aussi connaître la persécution. Il y a des luttes et des combats parmi les Éphésiens. Il y a des luttes et des combats parmi les enfants de Dieu, y compris parmi nous aujourd'hui. Quels sont tes domaines de lutte? Dans quel domaine est-ce que je reconnais la faiblesse? Où j'ai besoin de la force toute puissante de Dieu? Si on ne reconnaît pas nos faiblesses, si on pense y arriver par nous-mêmes, on est dans l'erreur et on ne peut pas profiter de la force toute puissante de Dieu. Troisième aspect, pour être fort dans le Seigneur, nous devons connaître la force du Seigneur. Une fois, je discutais avec quelqu'un et qui disait, bah voilà, j'ai mal là, et puis ça fait des mois. Et je lui dis, bah, on peut prier pour ça. Il me fait, mais on a déjà prié, mais je ne sais pas si Dieu il est assez puissant. Est-ce qu'il y a des moments dans nos vies où nous aussi, peut-être on ne le dira pas de cette façon, on se pose cette question, est-ce que Dieu il est assez puissant? Est-ce que Dieu il regarde à moi? J'ai envie de te dire, oui, Dieu est le créateur de tout l'univers. Il a créé des astres, il a créé les myriades d'étoiles, il a créé tous les détails de la nature qui se trouvent autour de toi, il est assez puissant. Dieu a prévu des plans des centaines et des milliers d'années à l'avance et ils s'accomplissent. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il n'y a personne qui est plus puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Verset 11. Bon, essayez de me rattraper. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Soyez forts dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme contre l'ennemi. Au chapitre 4, verset 24, il est dit « Vous avez appris !» Donc à vous dépouiller de l'homme mauvais et ainsi de suite. Mais vous avez aussi appris cela. Vous avez appris à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez appris. C'est ce qu'on fait dimanche après dimanche, semaine après semaine. À chaque fois qu'on ouvre notre Bible, nous apprenons à nous revêtir de l'homme de Dieu. Nous revêtir de cet habit qui nous fait ressembler à Jésus-Christ, qui nous permet de nous approcher de Dieu dans sa sainteté. C'est pas par nos propres forces, mais nous pouvons tenir ferme dans la sainteté, la justice et la vérité, parce que nous savons que cette force-là vient de Dieu. Nous avons besoin des armes de Dieu. Nous avons besoin de lui ressembler de plus en plus. Verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ça, c'est un verset qui me parle souvent. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui te casse les pieds, qui, tous les jours, vient peut-être au travail et te fait la mauvaise blague, mais juste celle qui te pique suffisamment pour te pourrir la journée. Vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage? Ouais, ça. Et c'est là que tu peux dire, je veux pas me battre contre cette personne-là. Je veux me battre pour la gloire de Dieu et que cette personne rencontre Christ. Qu'elle puisse connaître la vérité, être libérée de ce qui la détruit et détruit ce qui la côtoie. C'est un choix, mais ce choix-là, il se fera quand on regarde à Dieu, quand on ouvre notre Bible et qu'on dit, c'est ça la vérité. Nous avons souvent le réflexe de vouloir répondre aux agressions par des paroles et des actes. Vous savez, quelqu'un vous fait ça, le matin, vous avez plutôt envie de lui mettre du sel dans le café. Personne ne l'a fait, j'espère. Mais on ne veut pas combattre contre des personnes, mais contre des esprits mauvais, un monde corrompu. Et en se rappelant que le péché, il a imbibé tout ce qu'on peut connaître dans ce monde, mais que Dieu a quand même gardé des belles choses pour permettre à chacun de pouvoir le connaître. Que ce soit la nature, que ce soit peut-être la bonté que Dieu a quand même mis dans chaque homme. Mais notre principal combat est de faire la volonté de Dieu, lui obéir et prendre part à l'œuvre de Dieu et vivre dans la vérité. Et le combat se déroule dans le monde invisible. Il se déroule lorsqu'on se met à genoux et qu'on prie. Je pense que nous en avons vraiment besoin de nous rappeler ces choses-là pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre Église. C'est quand la dernière fois qu'on s'est mis à genoux pour notre Église, pour un frère, pour une sœur? Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comprenez que si nous n'avons pas le discernement, si nous n'utilisons pas le discernement du Saint-Esprit, si nous ne prions pas pour demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses, on va se battre contre le vent. On verra toujours un problème là où il n'est pas, et on ne verra pas le problème qui est en face de nous. C'est un peu comme si vous sortez votre épée pour essayer d'éteindre un incendie, pour vous battre contre le feu. Ça ne marchera pas. Peut-être ça va fondre. Peut-être vous allez rajouter, vous allez brasser du vent, vous allez allumer encore un autre endroit. Pour tenir ferme dans le monde spirituel, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu et nous avons besoin des bonnes armes. Car le jour du retour de Jésus, jusqu'au jour du retour de Jésus, chaque jour est mauvais. Il y en a des mieux et des moins bien, mais chaque jour est mauvais parce qu'on vit encore dans le péché. Tout est imprégné du péché. Et c'est là qu'on a besoin de se dire « j'ai besoin de tenir ferme ». Et ça consiste à me laisser équiper par Dieu, à persévérer chaque jour dans le bon combat. Et la force pour combattre, elle se trouvera qu'en Dieu, nulle part ailleurs. Et c'est là qu'il y a vraiment tout cet intérêt de connaître l'équipement. Imaginez où on envoie un soldat peut-être aujourd'hui au Mali ou en Afghanistan ou je sais pas où en Ukraine. Et en fait, il a plein de trucs. Alors, je crois savoir qu'un soldat d'une armée moderne, il a plus de 15 ou 20 000 euros d'équipement sur lui. Imaginez juste le truc. Il vaut plus qu'une voiture avec... C'est ça ? Ah non, Lucas, je ne le vois pas. Bon. Mais du coup, si vous ne savez pas à quoi ça sert, si vous pensez que, par exemple, le bazooka, c'est juste un tuyau pour réparer des WC, bah vous n'allez pas être aidé. On a besoin de connaître nos armes, on a besoin de connaître notre boîte à outils. Sinon, on aura tendance à vouloir peut-être enfoncer des clous avec une pince. Vous avez déjà essayé ? C'est pas facile, hein, faut être bien... Ou peut-être d'essayer de couler un sous-marin avec un lance-pierre. Je pense que personne n'a réussi pour l'instant. Verset 14. « Tenez donc ferme ! Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de justice. » Vous savez, quand j'étais enfant, on me disait « Mais en fait, Paul, il a vu ça parce qu'il a vu des soldats romains qui étaient en habits de combat, et ainsi de suite. » Et je pense que c'est vrai. Mais j'étais surpris de relire ça dans Ésaïe 59, verset 15. La vérité est devenue rare, et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a pas de droiture. Il constate qu'il n'y a personne qui est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. L'Éternel. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. C'est l'équipement de Dieu lui-même dont il est question. On a relu avant le fait de se revêtir de l'homme nouveau pour être dans la sainteté, dans la justice de Dieu, mais ça va plus loin. C'est se revêtir de l'armure de Dieu lui-même. Dieu te demande de revêtir la même armure que lui-même porte pour manifester les attributs de Dieu, la justice, la vérité dans ce texte. Et la vérité, elle fait référence à la façon dont nous vivons. Est-ce que je vis selon la vérité de l'évangile de Jésus-Christ ? Est-ce que je vis cette vie sans compromis ? Est-ce que je cherche à vivre sans compromis ? C'est bien de savoir que Jésus aime le monde, et ainsi de suite. Mais est-ce que j'ai cette vérité qui traverse ma vie de dire « si Jésus aime les autres, moi aussi je veux les aimer ». Même si j'y arrive pas toujours aussi bien que je le voudrais. Et par exemple, ça c'est un aspect très concret. Est-ce que je vis pour l'évangile dans la vérité ? Est-ce que je vis en me rappelant chaque jour « j'appartiens à Jésus-Christ et je veux lui ressembler ». Je veux ressembler à Dieu. Si Dieu me met à disposition des dons, je veux les utiliser pour vivre l'évangile, pour partager l'évangile. Et ça veut dire non à l'égocentrisme, à dire bon, « en fait, moi je m'occupe déjà de moi, là j'en ai déjà fait assez pour cette semaine, les autres, ils ont qu'à se débrouiller maintenant ». On est tous tentés par ça, et par moments, il faut faire des pauses, on est d'accord. Hein. Mais vous voyez un peu ce schéma-là ? Est-ce que je vis pour Christ ? La droiture et la justice, ça consiste à dire non au compromis. Marcher selon la volonté de Dieu, marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité. Et comprenez qu'à chaque fois que nous faisons le choix de vivre dans la vérité, de vivre dans la justice, ça peut avoir un coût. Mais on réaffirme que Jésus est celui qui nous dirige, celui à qui on veut ressembler. Ça nous dit que nous voulons tenir ferme en contribuant à la gloire de Dieu. Verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et là aussi, ça se trouve dans Ésaïe, pour décrire le Messie. Ésaïe 52, verset 7. Normalement, j'ai le verset. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Est-ce que je vis pour publier la paix, pour publier le salut et dire Dieu règne, même dans mes combats? Et c'est ce passage d'Ésaïe est pour le peuple d'Israël qui est en exil à Babylone. Dans la Bible, Babylone, ça signifie la ville du péché. Et même là, Dieu leur demande de faire des bonnes choses, de montrer sa gloire et de publier le salut de Jésus. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle qui libère de l'esclavage, du péché, de la mort, des addictions, de toutes choses. Dieu veut nous équiper avec du zèle. Est-ce qu'on est zélé pour l'évangile? Est-ce qu'on est zélé pour annoncer la paix, la réconciliation, la liberté en Jésus? Est-ce qu'on est zélé pour adorer Dieu? Est-ce qu'on se dit, ouais, c'est chouette, je vais me retrouver avec mes frères et sœurs, on va adorer Dieu? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est chouette, je vais enfin pouvoir parler de Jésus à quelqu'un qui est dans la souffrance, à ce voisin que je côtoie semaine après semaine? Est-ce qu'on a ce feu de Dieu en nous? Est-ce qu'on le veut, ce feu de Dieu? Est-ce qu'on a suffisamment de compassion pour ceux qui vivent dans l'esclavage du péché, qui n'ont aucun espoir? Est-ce que je suis disponible pour Dieu, pour vivre pour lui, pour partager la bonne nouvelle de l'évangile? Est-ce que je suis disponible? Verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Le bouclier, il a cette particularité d'être à la fois une arme défensive pour se défendre et une arme offensive pour attaquer. Le bouclier de la foi, c'est ce qui nous rappelle les promesses de Dieu. Et la foi est très présente dans le livre des Éphésiens, dès le début du livre, chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous avons cru en ce qui était promis. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la foi qui est le moyen pour être sauvé. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 3, verset 12. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu en confiance. Et ainsi de suite, la foi est la base de la vie chrétienne. Ce sont les promesses de Dieu qui nous enracinent en Dieu et en son amour. Et ça nous rappelle notre identité d'enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. La victoire finale appartient à Dieu. On a juste à attendre que davantage de personnes puissent connaître et adorer Dieu. Verset 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le casque du salut, ça nous rappelle le salut en Jésus. Notre repos est assuré en Christ pour l'éternité. C'est quelque chose qui est sûr et certain. Toutefois, nous devons vivre désormais de manière digne du salut. Est-ce que jour après jour, je me rappelle que Jésus l'a tout payé? Il a payé le prix fort pour que je puisse vivre comme lui aurait vécu dans ce monde. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu et c'est essentiel pour marcher avec Christ. À la fois pour nous défendre, mais aussi pour faire éclater la vérité de l'évangile. Vous savez, quand Jésus il a été tenté après son baptême, le diable lui a dit « Mais voilà, moi je peux tout te donner.
Jésus lui a répondu par la parole de Dieu. Il a dit que c'est à Dieu qu'appartient tout. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, et je ne parle pas d'avoir lu la Bible en 6 mois ou 1 an et ainsi de suite, hein. Je parle de, est-ce qu'on est imprégné de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est imprégné de la pensée de Dieu? Si on n'a pas ça, en fait, on se perdra dans plein de combats qui ne nous concernent pas. On ne saura pas répondre au diable quand il te dira « Tu n'es pas un enfant de Dieu ». Alors que là, tu peux dire « Je suis enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il l'a scellé sur moi par l'empreinte du Saint-Esprit. Dieu vit en moi !» On a besoin d'avoir des choses sur lesquelles nous poser les promesses de Dieu. Ça nécessite de nous laisser imprégner par le Saint-Esprit qui va réutiliser tout ce qu'on aura entendu, appris, tout ce qu'on aura mémorisé. La parole de Dieu est vraiment le point commun dans toutes ces armes pour tenir ferme et accomplir la volonté de Dieu. Enfin, il faut une stratégie. Il y a un film que peut-être plusieurs ont vu, c'est War Room. Et en fait, on voit une mamie qui prie dans son placard. Si vous ne l'avez pas vu, c'est marrant. Et elle dit, mais il faut une stratégie. J'ai besoin d'être organisé. Et pour tenir ferme, nous avons besoin d'une stratégie. Et la base, elle se trouve dans la Bible. La prière. La prière, c'est notre stratégie principale. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Et je voudrais juste faire quelques remarques. Nous avons à prier dirigé par l'Esprit, dirigé par Dieu lui-même. Pas pour faire des belles phrases, mais pour être dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce que parfois on prie, « Seigneur, amène-moi à prier comme toi tu le désires. » Ça, c'est une bonne prière. En tout temps, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais moments, avec persévérance, donc ça veut dire qu'il y a des moments ben il faut se bousculer un peu parce qu'on n'aura pas forcément envie. Et il n'y a pas de sujet qui n'a pas d'importance au regard de Dieu. Dieu s'intéresse à tous tes sujets, à tout ton quotidien. Et nous pouvons même demander Dieu en le suppliant. C'est quoi? C'est quand la dernière fois que j'avais quelque chose qui était tellement lourd dans mon cœur que j'ai supplié d'intervenir? Pas forcément que pour moi, mais pour mon église, un frère, une sœur. Dieu dit, priez pour les frères et les sœurs. Prier pour l'Église, c'est essentiel. C'est pas quand on est à court de sujets de prière. Il s'agit d'un engagement et ça nécessite d'être suivi et entretenu. C'est pour ça qu'il est dit veiller. Pourquoi on se retrouve au moins une fois par mois juste pour prier et louer Dieu? C'est parce qu'on veut veiller ensemble. C'est pas pour les ultra-spies, c'est pour les enfants de Dieu qu'on se retrouve pour louer Dieu. Peut-être ça peut être de prendre un carnet pour noter les sujets, les exaucements, on a des carnets de prière pour les femmes, bientôt pour les enfants, des livres à prière, on a des groupes de maisons, on a plein de choses qui existent. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis disponible pour prier? Est-ce que j'ai une stratégie? Comment savoir pourquoi prier? Nous pouvons prier pour tous les détails de nos vies, nous pouvons prier pour les sujets des uns et des autres, et nous pouvons prier pour tenir ferme dans la justice, la droiture, nous rappeler les promesses de Dieu, les proclamer. Je proclame que j'appartiens à Jésus-Christ. Notre zèle pour partager l'Évangile et vivre l'Évangile, ça ne sera pas toujours facile, mais on peut prier pour que Dieu nous donne cette possibilité-là. Je vous l'avais déjà dit, hein. Les fois où je priais en disant « Permets-moi aujourd'hui de partager l'Évangile avec quelqu'un », Dieu, assez régulièrement, me mettait en face de personnes. Je pense qu'ils n'ont jamais croisé un chrétien. Mais est-ce que je suis disponible pour me laisser bousculer? Et Paul nous ouvre son cœur et nous livre ses grandes préoccupations. Et je pense que ça peut vraiment nous toucher. Verset 19. « Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Je crois que c'est tous les prédicateurs, tous ceux qui partagent la parole de Dieu, ils ont ce fardeau-là. Et je pense que quand Paul le dit, c'est vraiment que ça lui pèse. Est-ce qu'on prie pour nos prédicateurs, ceux qui enseignent? C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Il est ambassadeur de Jésus, mais pas comme il le voudrait, il est enchaîné. Littéralement, je pense. Priez pour que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Il y a un gars qui est au fond d'une prison, enchaîné dans la pénombre, qui dit « Priez pour que je puisse annoncer l'Évangile ». Il ne dit pas « Priez pour que je puisse sortir ». de la prison ou ainsi de suite. Il dit, priez pour que je puisse faire mon job d'ambassadeur. Et j'ai une nouvelle pour toi, tu es aussi un ambassadeur là où tu te trouves. Dieu t'envoie pour partager l'évangile, pour partager son amour. Et Paul est envoyé jusque devant l'empereur de Rome. Il est enchaîné, mais il prie. Il demande à toute l'Église de prier pour qu'il puisse annoncer l'évangile, même si les conditions ne sont pas les plus favorables. Il prie pour connaître le vrai combat dans lequel il doit s'engager, de faire confiance à Dieu dans tous ces domaines-là. Être conscient des objectifs de Dieu dans nos vies, c'est essentiel. Sinon, on pourra passer à plein de petits sujets qui ne sont pas essentiels. On peut tout prier pour Dieu, mais est-ce que ce qui est vraiment essentiel, vivre selon la parole de Dieu, est-ce que c'est mon sujet de prière principal? Et Paul ne demande pas à sortir de prison. Il demande à faire son job. Moi, je pense que c'est vraiment cette prière simple qu'on peut faire tous les jours. Aide-moi à être l'enfant de Dieu que tu veux que je sois, peu importe les circonstances. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'assurance. Si Paul le demande, alors qu'il connaît bien sa Bible, il a connu plein de souffrances et il s'est relevé, s'il demande de prier avec assurance, c'est que nous aussi, on a besoin d'avoir cette assurance, que nous appartenons à Dieu et que nous avons été choisis par Dieu pour faire notre job dans notre quotidien. Ça nécessite du zèle, de la fidélité, vivre dans la vérité et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et enfin, il envoie Tychique pour qu'il partage la situation de Paul. Et je voudrais juste faire deux remarques. Lorsque nous prions pour un besoin, nous pouvons, sans dévoiler tous les détails de notre vie, quand même partager ce qui permet de prier convenablement. Parfois, il y a des personnes qui me disent « En fait, j'étais à l'hôpital pendant 2 semaines, mais ça fait 3 semaines que je suis rentré. On n'a pas pu prier pour toi. C'est dommage, quand même. » Ça permet aussi de pouvoir nous émerveiller lorsque Dieu répond. Nous émerveiller aussi de comment Dieu, par exemple, t'a soutenu quand tu étais à l'hôpital, quand c'était difficile. Ne prive pas l'Église de pouvoir prier pour toi et de nous émerveiller de comment Dieu a répondu. Et enfin, on peut vraiment prier pour être associé au projet de Dieu dans le monde et dans notre région. Et je vois que là, il y a vraiment ce cœur à cœur où Paul dit pour que ces nouvelles, pour que vous ayez des nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. Lorsqu'on voit Dieu agir, notre cœur est réconforté. Parce qu'on sait que ce n'est pas notre problème, c'est celui de Dieu. Nous, on a simplement besoin d'être là. Verset 23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et aux sœurs de la part de Dieu et le Père de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne peut se corrompre. Et là, je crois qu'il y a 5 bénédictions qu'on peut prier pour notre Église, que Paul a prié pour cette Église d'Éphèse. La paix, l'amour, la foi, la grâce et la persévérance. C'est juste pour expliquer la grâce, c'est de nous rappeler qu'on n'est pas toujours au top, mais qu'on peut toujours se relever, qu'on est faible, mais que Dieu, il est tout puissant. Et c'est ça la grâce. Et c'est ça une stratégie qui est définie selon la Bible pour mener le combat de la bonne manière, jour après jour, semaine après semaine, et aussi dans les défis que vit notre Église peut-être depuis des années, des mois, nous pouvons combattre avec les forces que Dieu nous donne, en nous rappelant que Dieu est tout puissant. Peut-être dans notre vie, on connaîtra des persécutions, des échecs, des trahisons, des désillusions, des doutes. Et on aura nécessairement le sentiment d'avoir une vie à contre-courant de tout le monde. Mais c'est la vie chrétienne. Jésus nous a prévenus. Et on ne peut pas esquiver le combat. Je sais qu'on est tenté par ça. Moi, je suis tenté par ça. Mais on ne peut pas l'esquiver. Mais on peut s'y préparer individuellement et collectivement. Et la clé se trouve dans notre dépendance à Dieu. Dire, moi, ça ne dépend pas de moi, mais je m'attends à toi. Tant qu'on n'a pas lâché prise et qu'on n'a pas confié à Dieu, on ne peut pas vraiment expérimenter l'intervention miraculeuse de Dieu, je pense. Après, c'est la connaissance personnelle de notre Sauveur, Savoir que s'il nous a sauvés pour l'éternité, il est aussi là avec nous aujourd'hui. C'est le choix de persévérer lorsque c'est difficile. Mais aussi, peut-être parfois, quand on a une sensation de lassitude. Je ne sais pas si vous avez ça, mais en tout cas, je trouve que depuis le mois de février, c'est quand même difficile. C'est un vrai choix de persévérer, même dans la fréquentation de l'Église. Il fait de nouveau beau, ça fait peut-être 2 ans qu'on n'a pas vu des amis, la famille, ainsi de suite, et c'est bien d'aller faire une visite. Mais est-ce qu'à un moment, j'ai vraiment mis les choses essentielles aussi pour garder ce qui est important dans mon quotidien? Dans la prière, la lecture de la Bible, la fréquentation de l'église locale, le partage de l'évangile à mes amis, mes voisins. Et je voudrais finir juste, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'épître aux Éphésiens, dans tout ce qu'on aura vu? Moi, j'y vois la grandeur de Dieu, dès les premiers versets. Ce Dieu qui a créé l'univers, il t'a choisi toi pour être son enfant avant même la création du monde, parce qu'il t'aimait. Ma place d'enfant de Dieu, mon identité, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, mon job, mon niveau d'études, où j'habite. C'est Dieu qui dit que je suis son enfant et que j'ai ma place avec lui pour l'éternité, avec Jésus-Christ. Et aussi, ce qui est fort, c'est la place de l'Église dans la grande œuvre de Dieu. C'est un lieu de réconciliation entre les peuples, entre les ethnies, entre les nations, pour former un seul peuple à la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose qui se poursuivra jusque dans l'éternité. Ce que tu as investi aujourd'hui dans ton Église, c'est ce qui restera pour l'éternité encore. Et je vous invite à prier. Et Père, je te remercie parce que tu nous as permis d'être tout à nouveau émerveillés par cette épître aux Éphésiens où tu nous rappelles ta grandeur, tu nous rappelles ton amour, tu nous rappelles tes plans magnifiques et éternels. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes la force et la joie et le zèle de demeurer ferme en toi, de demeurer ferme dans notre marche chrétienne. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions avoir la force qui vient de toi, que nous puissions avoir toutes les armes que tu nous donnes pour résister lorsque les jours sont mauvais, pour persévérer dans la vie chrétienne, dans l'annonce de l'Évangile. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes de la stratégie, que tu nous éclaires, que tu nous donnes du discernement, que tu nous donnes vraiment cette joie de nous retrouver pour prier ensemble, mais aussi prier lorsque nous sommes seuls, peut-être dans notre voiture le matin en allant au travail, que ça soit notre joie de pouvoir nous adresser à toi, dans la prière, dans les chants. Et Seigneur, je te prie pour notre Église, je te prie que ta gloire soit magnifiée au milieu de nous, que nous soyons brûlants pour toi. Seigneur, que nous soyons tes adorateurs et que nous soyons guidés par ton Esprit, non par nos forces, mais par ton Esprit. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.